Alors bonsoir et bienvenue à chacun et à chacune. On se retrouve ce soir pour une nouvelle soirée Biblos en compagnie de Frédéric Jean. On s'était quitté il y a 2 semaines avec l'exhortation de ne pas se juger, de ne pas se mépriser, et puis qu'on aurait chacun à rendre compte un jour devant Dieu. Je vous propose de remettre cette soirée par la prière. Oui, Dieu Père, on veut te remettre cette soirée, te demander que tu puisses ouvrir nos cœurs, les ouvrir pour écouter ce que tu as à nous dire, pour écouter ce que tu veux nous dire à travers ces chapitres de Romains, à travers ce que va nous partager Frédéric. On te demande de le bénir tout particulièrement, qu'il puisse être un outil dans ta main, et on veut te demander de pouvoir aussi mettre en pratique dans nos vies ce que l'on va entendre pour toujours plus te ressembler, marcher pour toi et pour ta gloire. Alors on te demande de remettre, on te remet toutes les personnes qui sont derrière leur caméra, derrière leurs écrans, et que ce soit sur les 3 continents sur lesquels on se trouve, en Amérique, en Afrique ou en Europe, on te remet chacune des personnes qui écoutent ce message. Et on te remet aussi la technique qui peut être parfois capricieuse, mais on sait que tu mettras ta bonne main pour toute chose. On te demande ces choses par le nom du Seigneur Jésus. Amen.
Amen. Merci Mathias, merci à tous. Donc, Frédéric, Jean, je suis à Düsseldorf en Allemagne ce soir pour continuer notre lecture sur le chapitre 14 et début du chapitre 15 des Romains. Voilà, le titre que nous avions donné déjà la dernière fois, Liberté chrétienne et considération de l'autre. Continuons donc notre lecture que nous avions laissée à peu près vers le milieu du chapitre 14, là, il y a 15 jours, avec ce plan, l'amour, la lumière, vers la fin du chapitre 13. Ne devez rien l'un à l'autre, à part de vous aimer l'un l'autre, ne devez rien à personne. La lumière, et puis on avait commencé ce sujet de la liberté chrétienne. Avec ces 3 parties, aussi les 3 C du docteur McGee de Through the Bible, qui aime beaucoup ce genre de découpage, mais qui convient bien ici aussi, une liberté dont on doit être convaincu, une liberté avec une bonne conscience, et puis une liberté avec une considération pour les autres. Voilà les 3 parties de cette liberté. Et ça se termine par Jésus pour les Juifs et les nations, et on aurait pu croire, mais quel est le rapport? Et en fait, il y a un rapport assez étroit, c'est que beaucoup des sujets que nous avons lus la dernière fois et que l'on continuera à lire ce soir semblent quand même bien, sur le plan historique au moins, être venus sur la table parce qu'il y avait des chrétiens juifs et des chrétiens des nations dans l'église de Rome et qu'il fallait qu'ils apprennent à vivre ensemble. Alors nous reprenons au verset 14 de Romains 14. Je sais et je suis persuadé dans le Seigneur Jésus que rien n'est souillé en soi. Mais si quelqu'un croit qu'une chose est souillée, elle est souillée pour lui. Car si à cause d'un aliment ton frère est peiné, tu ne marches plus selon l'amour. Par ton aliment ne cause pas la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que ce qui est bien en vous ne soit donc pas blâmé. Ça commence par cette remarque dans le Seigneur Jésus. L'apôtre va fonder son enseignement sur celui du Seigneur Jésus. Et comme nous l'avions commenté, cet enseignement du Seigneur Jésus n'est pas encore écrit. Il n'y a pas encore les évangiles. Il y a peut-être déjà des sources. Il y a peut-être déjà des écrits, mais pas encore les évangiles. Néanmoins, l'enseignement du Seigneur Jésus est connu par les premiers chrétiens et plusieurs choses d'aujourd'hui vont vraiment s'inspirer du Seigneur lui-même. Rien n'est souillé en soi. Alors, rappelons le contexte, il s'agit de des questions de conscience, pas des péchés caractérisés, un péché caractérisé par la loi, le Décalogue, ou par d'autres textes clairs de la Bible, c'est une souillure. Notre contexte, c'est justement les questions de conscience, les sujets qui, où l'un a une opinion, l'un a une autre opinion. Rien n'est souillé en soi. Et cela nous rappelle justement le Seigneur Jésus, qui bouscule les repères des Juifs. Quand il déclare que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est là ce qui souille l'homme, Matthieu 15. Ce qui me souille, c'est pas ce qui rentre, mais c'est l'écho qui sort de moi. La sollicitation extérieure crée dans mon cœur pécheur un écho. Et c'est cet écho qui souille. C'est du dedans du cœur que sortent les mauvaises pensées, etc. Le Seigneur en donne la liste. Donc, l'écho me souille dans mes pensées, mes paroles, mes actions. Mais en soi, la chose n'est pas souillée. Et 1 Corinthiens 8 donne un complément d'enseignement sur ce sujet. En ce qui concerne la question de manger ce qui a été sacrifié aux idoles, nous savons qu'une idole n'est rien dans le monde. Hein. Rien n'est souillé en soi. Une idole n'est rien dans le monde. Et qu'il n'y a point d'autre Dieu qu'un seul. Mais la connaissance n'est pas en tous. Certains qui ont jusqu'à maintenant conscience de l'idole mangent de ces viandes comme des viandes sacrifiées aux idoles et leur conscience, qui est faible, en est souillée. Donc, l'idole n'est rien, rien n'est souillé en soi, parallèle avec notre passage. Si quelqu'un croit qu'une chose est souillée, elle est souillée pour lui. Et voilà ici le faible de 1 Corinthien. Comme il avait encore conscience de l'idole, il pense qu'il y a une idole derrière. Il pense que c'est ces viandes qui étaient sacrifiées aux idoles. Eh bien, elles étaient vraiment pour des idoles, et il a conscience de l'idole qui est derrière. En acceptant de manger ces viandes, il viole sa propre conscience, qui est faible, et il est souillé par cela. En 1 Timothée 4, toute créature de Dieu est bonne. Il n'y en a aucune qui soit à rejeter. Et les aliments, la suite de ce texte de 1 Timothée 4, les aliments sont sanctifiés par la parole et par la prière. La parole les déclare purs. Et par la prière, nous exprimons notre reconnaissance envers Dieu qui a permis tous les maillons de la chaîne alimentaire, de la terre jusqu'à mon assiette. Et d'ailleurs, on peut également lire la parole de Dieu à l'occasion des repas. Les aliments sont sanctifiés par la parole et par la prière. Rien n'est donc souillé en soi. Mais si quelqu'un croit qu'une chose est souillée, elle est souillée pour lui. Donc les pensées interviennent. Les pensées entrent en jeu. C'est bien l'intérieur qui compte. N'étant pas pleinement persuadé, je crois que la chose est mauvaise. Si je m'y engage, je transgresse. C'est bien une question de pensée. Alors, j'ai ici un exemple. Un exemple tout simple. Je gare ma voiture ne sachant pas s'il faut payer le samedi. Si je décide de ne pas vérifier et de partir sans payer, je transgresse, indépendamment du fait qu'il faille payer ou non. Donc aussi bien c'était gratuit mon paiement, ma voiture, mon parking. Mais comme j'ai un doute et que je vérifie pas, et que je ne clarifie pas ce doute, en décidant de m'engager quand même dans cette direction et de partir sans payer, eh bien j'ai transgressé indépendamment du fait qu'il faille payer ce jour-là ou non. Hein? Une petite illustration pour aider à comprendre. Si à cause d'un aliment, ton frère est peiné, tu ne marches plus selon l'amour. Donc il y a une disproportion entre l'aliment qui a l'air un peu de rien, et puis le frère, il est peiné. Et pourquoi il est peiné? Ben parce qu'il pense que l'aliment va me souiller, moi. Donc il me voit le manger, il pense que je vais être souillé. Lui-même s'en abstient. Alors j'en tiens compte. Et en sa présence, peut-être que je peux aller jusqu'à m'abstenir par amour, parce qu'il est peiné. Mais je m'abstiens par amour, parce qu'il est peiné. Je ne m'abstiens pas par crainte ou parce qu'il me critique. On voit bien ici la différence. Je m'abstiens par amour parce qu'il est peiné, pas par crainte, pas parce que j'ai peur de lui ou parce qu'il me critique. C'est donc un appel à l'amour après avoir été appelé à la liberté. Depuis, dans les différents textes que nous avons lus, on a vu qu'on pouvait faire trébucher son frère, on peut le peiner, juste là, et maintenant on peut même causer sa perte. Par ton aliment, on ne cause pas la perte. Donc toute la question se pose à moi, de mon égoïsme, c'est que moi j'ai envie de mon aliment, qui a l'air très petit dans cette histoire, ça pourrait être une autre chose que les aliments, hein. On avait vu qu'il y avait d'autres cas possibles, mais ici il y a une immense distance entre l'aliment et la perte de celui pour lequel Christ est mort. Il ne s'agit évidemment pas d'une perte éternelle, mais il peut être embarqué dans quelque chose qui peut lui faire, on va dire, perdre, à la limite, perdre sa course chrétienne, ou bien vivre une perte dans sa vie chrétienne, parce qu'il peut s'engager sur un chemin qui est mauvais pour lui. Donc c'est sérieux. Il risque de tomber, perdre sa vie, sa course chrétienne, alors que c'est peu de choses. Donc plutôt que de minimiser en disant c'est peu de choses, je prends plutôt à cœur. Et c'est pour lequel ce frère, c'est pour lequel Christ est mort. Donc l'amour est pratiqué à l'intérieur de l'Église ici. Hein, on a en vue le Christ qui est mort pour tous les chrétiens. Et Christ est mort pour l'autre, mais il est aussi mort pour moi. Et je ne devrais donc pas être égoïste dans l'usage de ma liberté, parce que si le Seigneur, lui, il a donné sa vie pour les autres, moi, je peux peut-être renoncer à un petit quelque chose, une chose à laquelle je suis peut-être attaché en privé ou dans ma famille, mais dans le cadre de l'Église ou dans le cadre d'un moment où il y a des frères et sœurs autour de moi, eh bien, je ne vais pas pousser mon égoïsme pour l'usage de ma liberté, alors que le Christ est mort pour moi. Il est mort pour l'autre, il est mort pour moi. Que ce qui est bien en vous ne soit donc pas blâmé. C'est bien, mais il ne faudrait pas que ce soit blâmé. Alors ce petit verset, il n'est pas facile à comprendre. Plusieurs pistes. D'abord, ça veut dire quoi? Blâmer ici, c'est blasphéméo. C'est parler outrageusement, insulter, calomnier, blasphémer, être injurié, insulter, railler. Donc c'est un peu plus fort que peut-être blâmer, comme on l'a ici dans notre traduction. Grâce à ma liberté en Christ, je pense qu'une chose est bonne. Si plusieurs autour de moi pensent le contraire, je m'abstiens de pratiquer en leur présence pour éviter que ma liberté bulldozer soit blâmable. Ça, c'est une première pensée de loi. Donc, si je vais à fond et que j'applique ma liberté à fond, eh bien, c'est bien peut-être en soi, objectivement, mais subjectivement, dans le perçu, dans la perception des autres, c'est blâmable parce que je suis passé en force. C'est le côté bulldozer qui serait blâmable. On peut peut-être aussi, comme il y a le côté blasphème, on pourrait se dire, est-ce qu'il y a peut-être des chrétiens aussi, des incroyants, pardon, qui sont témoins de la scène et qui sont étonnés aussi de cette incompréhension à l'intérieur de l'Église et de cette dissension et de cette incohérence apparente, peut-être aussi éventuellement ça. Autre façon, c'est aussi un appel à ceux qui risquent de blâmer, alors que la chose est bonne. On est en train de dire que c'est bien. Que ce ne soit donc pas blâmé, attention, à ceux qui auraient envie de blâmer. Donc aussi un appel à eux à faire attention. Mais on peut se dire, si je suis justement soumis au Christ, eh bien nous serons gardés du légalisme qui nous rend intolérants à l'égard des autres, mais aussi gardés du laxisme qui use de la liberté chrétienne comme d'une occasion pour la chair. Et on se souvient de Jude, verset 4, ceux qui changeaient la grâce de Dieu en dissolution, débauche, donc qui utilisait la grâce de Dieu, la liberté chrétienne, pour finalement tout laisser couler et que ça devienne totalement dissolution, débauche. Enfin, peut-être une autre façon de le voir ou qui complète, notre conduite dans la liberté ne doit jamais laisser même l'impression que c'est celle de la chair. Et la liberté que j'ai ne doit pas être blâmée d'égoïsme. Personne ne peut me blâmer si je m'abstiens d'user de ma liberté personnelle pour respecter la conscience de mes frères et contribuer ainsi à leur bien. Donc voilà une autre façon de le tourner dans son écriture. Personne ne peut me blâmer si je m'abstiens d'user de ma liberté personnelle pour respecter la conscience de mes frères et contribuer ainsi à leur bien. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas manger et boire, mais justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Celui qui, en cela, sert le Christ est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Le royaume de Dieu, justice, paix et joie. Voilà de nouveau des mots qui se rapportent à l'enseignement du Seigneur. Matthieu 5, le discours sur la montagne, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car c'est eux qui seront rassasiés. Matthieu 5, un peu plus loin, heureux ceux qui procurent la paix, car c'est eux qui seront appelés fils de Dieu. Et le royaume de Dieu, joie, on a plusieurs textes des évangiles, mais peut-être un des plus frappants, c'est Matthieu 22, Matthieu 20, le royaume des cieux a été fait semblable à un roi qui fit un festin de noces pour son fils. Est-ce que c'est pas beau ça, ce résumé du Seigneur Jésus, du royaume de Dieu, du royaume des cieux, semblable à un roi qui fit un festin de noces pour son fils? Quelle belle synthèse du programme que Dieu a pour son royaume, un programme de joie, faire un festin de noces pour son fils. Donc, royaume de Dieu, justice, paix, joie. Alors, bien sûr que manger et boire, c'est parfaitement légitime, mais ça n'est pas la priorité de nos vies. Et la priorité ici, c'est le royaume de Dieu, justice, paix et joie. Et si on repense à cette expression, manger et boire, elle nous rappelle quelques textes des évangiles aussi. Par exemple, Luc 17, quand il arriva au jour de Noé, ainsi en sera-t-il aussi au jour du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, hein, du temps de Noé, on se mariait, on donnait en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Donc c'est légitime, mais on voit que il y avait la vie tournait un peu autour de cela. Et quand il est parlé de Sodome, donc du temps de Lot, ce sera aussi comme au jour de Lot, on mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Vous remarquez aussi la différence. Du temps de Lot, on ne se marie plus, on ne donne plus en mariage, mais on est plutôt dans acheter, vendre, planter, bâtir. Le temps de Lot ressemble plus à notre temps actuel. Alors, ce n'est pas manger et boire, mais c'est justice, paix et joie. En psaume 4, tu as mis de la joie dans mon cœur, plus qu'au temps où leur froment, manger, et leur moût, boire, ont été abondants. Voilà, il y a une joie dans le cœur du croyant, plus que pour l'incroyant, qui bien sûr va se réjouir avec manger et boire, même si c'est abondant, même si c'est la fête. Il y a une joie profonde dans le cœur du croyant. Tu as mis de la joie dans mon cœur, plus qu'au temps où leur froment et leur moût ont été abondants. Donc ce n'est pas manger et boire, mais c'est justice, paix et joie. Et celui qui en cela sert le Christ. Alors une vie où les valeurs du royaume sont notre priorité, marquée par l'égard aux autres, est une façon de servir le Christ et d'être agréable à Dieu. C'est là aussi, c'est intéressant, c'est que notre attitude, notre comportement dans l'Église, notre comportement les uns vis-à-vis des autres, eh bien, c'est déjà un service. On sert le Christ quand on vit le programme de son royaume. On sert le Christ quand on vit dans l'égard aux autres, dans le renoncement pour les autres. Et l'expression qu'on est agréable à Dieu, approuvé des hommes, c'est une expression qui nous fait aussi penser au Seigneur. Jésus avançait en sagesse et en stature, en faveur auprès de Dieu, agréable à Dieu, et en faveur auprès des hommes, approuvé des hommes. Donc, le fait d'être agréable à Dieu et approuvé des hommes, c'est quelque chose que le Seigneur a montré dans sa propre vie. Et qui nous est aussi ici proposé. Alors, il est important, quand on exerce sa liberté, quand on vit la liberté chrétienne, de le faire avec une bonne conscience. Donc, après la partie conviction, qui était notre grand long chapitre, dans tout le début du chapitre 14 jusqu'au verset 18, on arrive à la partie avec bonne conscience. On a mis sa liberté, mais qu'en dit la conscience? Ainsi donc, verset 19. Ainsi donc, poursuivons ce qui tend à la paix et ce qui tend à l'édification mutuelle. À cause d'un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Toutes choses, il est vrai, sont pures, mais c'est un mal pour l'homme de manger en faisant trébucher. Il est bon de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, de ne rien faire. En quoi ton frère trébuche, ou se scandalise, ou est faible? Il y a des éléments de répétition, évidemment, dans ce texte-là par rapport à ce qu'on vient de voir, mais voilà, on va voir que le sujet de la conscience intervient. Poursuivons ce qui tend à la paix, tend à l'édification mutuelle. Et l'opposé, c'est de détruire. L'édification, c'est de construire. L'opposé, c'est de détruire l'œuvre de Dieu. Tendre à la paix et à l'édification, ce sont deux préoccupations dans la vie de l'Église. Vivre en paix ensemble et se construire les uns les autres. Voilà un des appels de l'Église, un des fondements de la vie communautaire, vivre en paix ensemble et se faire du bien l'un à l'autre. Alors que détruire, c'est l'opposé. Quel gâchis si des choses secondaires, comme un aliment, font le contraire de la construction, et c'est une destruction dans l'Église et non pas une construction. Toutes choses sont pures. Mais c'est un mal pour l'homme de manger en faisant trébucher. Il est bon de ne pas manger de viande, pas boire de vin, rien faire. Donc, objectivement, les choses sont pures. Mais subjectivement, la perception de l'autre est importante et j'adapte mon attitude en conséquence. Donc, il est vrai. C'est pur, mais voilà, c'est un mal de manger en faisant trébucher, et il est bon de ne pas manger de viande, boire de vin, rien faire. Donc, par rapport à l'autre. Donc, il y a une différence entre ce qui est objectif et ce qui est subjectif, c'est-à-dire la perception de l'autre. Et parfois, on est arc-bouté sur l'objectif, sur les faits. Alors que finalement, la perception de l'autre, c'est très important aussi. C'est pas que l'objectif qui est important. Si on regarde cette expression, manger la viande, vin, rien faire, quelque part, la viande, c'était un premier sacrifice que l'on pouvait faire. Renoncer à ces viandes, a priori, peut-être sacrifiée aux idoles, ou bien dans notre contexte plus juif, non-juif, peut-être de la viande qui n'était pas cachère. Donc on va s'abstenir de viande, mais on va quand même avoir un repas. Une étape un peu plus peut-être difficile, c'était de carrément même s'abstenir de vin. Ni viande, ni vin. Et puis encore plus difficile, c'était de rien faire. Rien faire en quoi mon frère trébuche. Donc il me semble que dans le texte là, il y a un peu une flèche qui va vers le haut. Mon sacrifice est de plus en plus grand. D'abord, je renonce à la viande, au vin, et je fais rien en quoi mon frère trébuche. Et d'un autre côté, mon frère, il peut trébucher, ce qui est quand même grave, ou bien être scandalisé, donc être troublé, ou bien il est faible. Il me semble que je suis de plus en plus attentif à mon frère. Donc la flèche, elle va aussi dans ce sens. Trébuche, ça se voit, c'est grave. Scandalise, bon, il a fait une mauvaise tête, faible. Il en est peiné. Donc mon sacrifice de plus en plus grand et ma sensibilité vis-à-vis de mon frère ici de plus en plus grande. Donc on voit l'ampleur de ce qui nous est proposé. Peut-être applicable dans les agapes, les fêtes de l'Église, les mariages, tous ces moments finalement communautaires où on est, où il y a toute la question de la table ou des habitudes et où on est en groupe. Voilà, mais c'est peut-être plus large que cela. Mais peut-être qu'il y avait une application particulière dans tous ces moments communautaires. Toi, tu as de la foi. Et là, pour toi-même devant Dieu. Heureux celui qui ne se juge pas lui-même dans ce qu'il approuve. Voilà le sujet de la conscience qui intervient. Mais si quelqu'un mange en ayant des doutes, il est condamné. Parce qu'il n'agit pas sur la base de la foi. Or, tout ce qui n'est pas sur la base de la foi est péché. La foi. La foi. La foi. Et cette foi, tu vas l'avoir pour toi-même. Alors, la foi dont on parle ici, c'est bien sûr la foi en la parole, c'est la foi chrétienne, c'est la connaissance des vérités chrétiennes, c'est aussi la foi au sens confiance. Hein, la confiance au Seigneur qui donne la liberté, la conviction intérieure, voilà, tu as de la foi. Et c'est cette foi-là dont il est parlé. Et là, pour toi-même, devant Dieu, c'est quoi? C'est de la discrétion. C'est pas un égoïsme qui passe en force, c'est de la délicatesse par rapport à la perception de l'autre. Et donc peut-être qu'il y a des choses que je vais pratiquer dans un cercle privé. Pour toi-même, devant Dieu. Mais par contre, tu dois être convaincu. C'est inébranlable devant Dieu, c'est devant Dieu. Donc, ta conviction, ta foi, ce qui te donne cette liberté, c'est quelque chose de solide. Pas d'hésitation. Mais ce n'est pas parce que c'est solide que tu dois l'afficher de partout. Ce n'est pas parce que c'est solide que tu dois passer en force le bulldozer qu'on a vu tout à l'heure. Et tu peux très bien le pratiquer pour toi-même, devant Dieu, discrètement, sans égoïsme, mais en respectant les autres. Heureux celui qui ne se juge pas lui-même dans ce qu'il approuve. Et il y a le risque d'avoir aussi des doutes. Alors, ce qu'il approuve, se juger soi-même, c'est la bonne conscience, et ce qu'il approuve, c'est la connaissance. Donc, ce qu'il approuve, voilà, je suis convaincu, c'est approuvé, c'est vraiment sûr, il n'y a pas de problème, c'est la liberté chrétienne. Ça, c'est ma connaissance, c'est ma conviction, c'est la foi. Mais il faut que la conscience aille avec. Qu'il ne se juge pas lui-même. Il faut pas que, au même moment que je me suis bien convaincu que c'était parfaitement une bonne chose pour moi, eh bien que, en fait, j'ai plein de doutes par rapport à ça. Si j'ai plein de doutes, c'est que je suis pas encore dans cette liberté avec une bonne conscience. Cette hésitation, cette tergiversation, c'est justement un peu un signal, justement, de faiblesse. Et d'ailleurs, notre conviction doit être forte, fondée sur la foi, sur la parole, ancrée dans le Seigneur. Donc, j'approuve quelque chose, c'est sur la base de la foi. Mais s'il y a des doutes, forcément, ben c'est péché. Si je m'engage en hésitant, sans être certain de l'approbation du Seigneur, j'accepte le risque de faire quelque chose qui est contre sa volonté. Donc c'est péché. Donc en fait, si je m'engage alors que je ne sais pas, alors que j'hésite, alors qu'éventuellement ce n'est pas approuvé par le Seigneur, mais que je le fais quand même, que je le pratique, que je le consomme, j'accepte en fait le risque de faire quelque chose qui est contre sa volonté. C'est ça, il me semble, qui est péché. Et l'expression « il est condamné » fait penser à Galates 2. Quand Céphas vint à Antioche, l'apôtre Paul dit « je lui résistais en face », parce qu'il était condamné. Hein, il avait eu une attitude où il n'avait pas été droit. Il avait au début pratiqué de la liberté, justement, et puis au moment où des gens plus conservateurs de Jérusalem sont arrivés, subitement, il s'est abstenu, mais pas du tout par dans l'esprit de notre chapitre, qui est le respect, la recherche de paix, mais il s'est abstenu parce qu'il avait peur. Il avait peur des frères conservateurs de Jérusalem. Alors l'apôtre Paul le reprend en public. Il dit, mais comment ça se fait que il y a quelques jours, tu mangeais avec tout le monde ici, avec tous les païens, et puis dès qu'il y a les frères de Jérusalem qui arrivent, tu changes d'attitude. C'est quoi? Tu n'es pas droit. Tu es condamné. Ça ne veut pas dire qu'il était condamné éternellement. Ça veut dire qu'il faisait quelque chose de faux et c'était condamnable, c'était pas juste. Et il fallait le rectifier. Donc celui qui n'agit pas sur la base de la foi, qui doute, qui s'engage alors que sa conviction n'est pas solide, eh bien, il se met dans une situation qui est condamnable. Ma conscience n'est pas parfaite, mais il vaut mieux la suivre que de la rejeter. Alors, un autre exemple de la vie courante. S'il y a un voyant rouge qui s'allume au tableau de bord, il vaut mieux arrêter de rouler que de penser que le détecteur est en panne ou que le problème n'est pas grave. Mais reconnaissons qu'un mécanicien dans la même voiture prendra peut-être une autre décision. Donc voilà le cas. Dans cette voiture, moi, ne sachant pas bien, voyant rouge, donc la conscience, voyant rouge, pas très sûr, pas très au clair, bah, a priori, il vaut mieux suivre ma conscience, même si elle n'est pas parfaite. Un autre qui a une bien meilleure connaissance de la situation, lui, il comprendra tout de suite que le voyant est en panne, ou bien il comprendra tout de suite que le problème n'est de toute façon pas grave, et peut-être qu'il prendra une autre décision. Mais moi, bah, j'ai mon voyant rouge, j'ai ma conscience. Donc l'idée, c'est que même si elle n'est pas parfaite, il vaut mieux la suivre que de la rejeter, de l'écraser. Alors, ce verset 22-23, on peut aussi les séparer finalement en disant que le 22 s'applique plutôt au fort, tu as de la foi, et là pour toi-même devant Dieu. Heureux celui qui ne se juge pas lui-même dans ce qu'il approuve, donc, et aussi une bonne conscience. Mais, et peut-être que le 23, c'est un peu plus le tableau du faible. Si quelqu'un mange en ayant des doutes, il est condamné. Donc le fort, le faible. Voilà. Ce qui d'ailleurs est une construction dans le chapitre assez fréquente. Souvent, il y a un appel à l'un, puis un appel à l'autre, avec un équilibre pour que justement. On vive la chose en équilibre et qu'on ne soit ni dans le jugement ni dans le mépris. Donc la liberté chrétienne n'est pas l'indépendance vis-à-vis de Dieu, mais une vie de foi et de confiance en lui. Voilà, nous arrivons à la pause avec d'abord peut-être les questions.
Bonsoir à chacun. Alors oui, Fred, il y a deux questions. Donc deux questions qu'on peut regrouper en une seule, mais je vais lire les deux. Comment comprendre la perte d'un frère d'un aliment dans le verset 15? Est-ce la perte du salut? Même question pour le verset 20, donc détruire l'œuvre de Dieu, est-ce la perte du salut toujours? Et on verra pour la troisième question après.
D'accord. Donc, pas du tout, ce n'est pas du tout la perte du salut, mais c'est volontairement des mots forts. Le mot perte et le mot détruire sont volontairement des mots très forts et qui sont exprès juxtaposés avec le mot aliment, qui lui est quelque chose de très insignifiant. Donc ça, c'est le message de base. Et la perte dont il a parlé, dont il est parlé, c'est le fait que le croyant qui risque d'être entraîné sur un chemin pour lui, c'est une transgression parce que sa conscience le lui interdit, parce qu'il est même convaincu qu'il se souille, alors il se souille, comme on l'a vu. Eh bien, cela lui inflige une perte dans sa vie, c'est-à-dire quelque chose qui lui fait du mal, qui lui fait du mal dans sa relation avec le Seigneur, qui est un péché. Et au lieu de le bâtir, de l'édifier, de le faire grandir dans la liberté et dans l'épanouissement, une vie heureuse avec le Seigneur, eh bien, c'est un élément de destruction. Donc finalement, moi, si c'est moi qui l'ai entraîné parce que j'ai voulu passer en force, parce que j'ai voulu lui imposer ma façon de voir, parce que je lui ai dit, mais tu vois bien que c'est pas grave, j'ai essayé de venir avec l'aspect objectif, sans prendre compte qu'il allait lui plus lentement et qu'il était à ce titre plus faible, en fait, ça va plus le détruire, au sens, ça va détruire des choses en lui, ça va créer de la perte. Mais rien à voir avec le salut, bien sûr, ou des choses, parce qu'il est peu probable que quelqu'un aille jusqu'à renier même la foi et on pourrait dire il va perdre toute sa vie chrétienne. Ça serait l'extrême. Ça serait je renie la foi et je perds ma vie chrétienne. Il ne va pas perdre son salut, mais il va perdre toute sa vie. Mais je ne pense pas que ça aille si loin quand même.
Donc la question se poursuit. En Romains 8, verset 1, n'y a-t-il pas de condamnation pour le chrétien? Et quelle condamnation parle l'apôtre dans le verset 23?
De quoi? Ah, de notre chapitre.
Oui, de notre chapitre.
Oui. Alors, donc, il est condamné, comme on l'a montré tout à l'heure en le comparant à Galate. Hein, l'apôtre Pierre était condamné. L'apôtre Paul lui dit, mais il était condamné. C'était tout à fait. Il était complètement à côté de la plaque. Ça n'était pas juste de faire comme ça. Et donc, il est condamné ici. Ça veut dire ça. Ça veut dire que il hésite, il mange quand même, eh bien, il se trompe. C'est faux, c'est pas ce qu'il fallait faire. Donc, il est à côté de la plaque, il est à côté du chemin. Et si on faisait le bilan de la situation, eh bien, on dirait, ce n'est pas juste. Il est condamné dans ce sens-là, au sens que c'est faux, ce n'était pas le chemin, c'est pas ce qu'il fallait faire. Le verdict de la situation dit que ce n'est pas ça qu'il fallait faire. Mais aucun rapport avec une condamnation éternelle ou une condamnation de jugement, c'est beaucoup plus la situation ne convient pas, il s'est trompé, il a fait fausse route.
Okay, merci. Alors, encore deux questions. Bon, il y en a une, je laisse Claude-Henri y répondre. Il est étonnant que les passages parlent de sujets secondaires et qu'il soit pourtant demandé une pleine conviction. Or, par définition, un point secondaire est un sujet de débat. Être certain pourrait nous conduire à l'orgueil? C'est une question.
Ok, c'est une très bonne question. Je pense qu'il n'y a pas d'opposition entre le fait d'avoir pour soi-même une conviction bien arrêtée, mais d'avoir l'humilité de penser que quelqu'un peut voir autrement. Je peux être bien convaincu et s'il y a un débat, s'il y a une discussion, ben je vais apporter mes arguments, mais en face, quelqu'un a une autre façon de voir et je la respecte et je l'accepte et je l'écoute. Et le fait que quelqu'un ait une autre pensée ne doit pas me troubler au point de me donner des doutes ou de me dire, ah, mais peut-être que je me suis trompé. Donc, ça, il ne faut pas que ça me crée des hésitations. J'ai le droit de changer d'avis. Mais, a priori, ma conviction, le fait d'être convaincu, c'est vraiment l'enseignement du passage pour qu'on ait une vie, heureuse de liberté et non pas de doute, d'hésitation, de tergiversation. Et le fait qu'un autre ait une autre pensée, eh bien, c'est tout à fait possible. Et justement, l'humilité, c'est de penser que d'autres puissent penser autrement. Et donc, ça n'est pas orgueilleux d'avoir des convictions fortes.
Ok, très bien. Merci. Donc, pour le moment, il n'y a pas d'autres questions. Donc, je vous propose que l'on se retrouve dans 5 minutes. À tout à l'heure.